Selon les Écritures. Selon les Écritures, le père Alain Marchadour, bibliste, dialogue avec Pierre-Yves Révillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission biblique Selon les Écritures. Pierre-Yves Révillon au micro, avec le père Alain Marchadour, bibliste. Bonjour père Alain.
Bonjour Pierre-Yves.
Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour la terre que je te ferai voir. Nous connaissons bien cette parole reçue de Dieu par Abraham, l'année de ses 75 ans. Le récit de cet appel fondateur inaugure les 25 chapitres de la Genèse qui forment ce que les exégètes appellent le cycle d'Abraham et qu'on pourrait comparer à une sorte de saga familiale. Lorsqu'on relit d'une seule traite ces 25 chapitres, on peut être un peu dérouté par le parcours à première vue chaotique du premier des patriarches. Nous allons donc consacrer trois nouvelles émissions à l'itinéraire de celui qu'on a appelé le père des croyants. Père Alain, vous nous rappellerez d'abord les principaux épisodes qui ont marqué la vie d'Abraham et de ses proches. Ensuite, nous relirons deux grands textes. Celui qui nous parle de l'hospitalité d'Abraham et de Sarah et de la promesse d'un fils qu'il aurait faite. Et ensuite, le récit du sacrifice de ce fils, Isaac, par Abraham. Nous nous appuierons sur votre ouvrage intitulé « Genèse » et publié en 1999 chez Bayard. Pouvez-vous, Père Alain, nous rappeler en quelques mots les faits marquants de l'histoire mouvementée d'Abraham ?
Oui, c'est vrai qu'on parle du cycle d'Abraham. Abraham est le personnage qui ouvre l'histoire du salut à travers, on pourrait dire, ce qu'on pourrait appeler l'histoire. Pas tellement d'épisodes d'ailleurs, mais beaucoup d'épisodes marquants. Il y a d'abord, bien sûr, sa vocation, son appel. Ça s'ouvre à travers le lien avec son père Terah, qui avait déjà quitté son pays et avec Abraham. Et Abraham va prolonger ce départ au chapitre 12. Puis, ensuite, il y a une séquence assez souvent commentée, pas facile à expliquer, dans laquelle Abraham, à cause d'une famine, doit aller en Égypte. Et c'est là que il fait passer sa femme, Sarah, pour sa sœur. Et ce mensonge pieux pour se sauver, au fond, a beaucoup été commenté par les interprètes, en particulier les juifs, assez sévères, au fond, certains voyant dans ce passage d'Abraham en Égypte une sorte de préalable avant le passage des Hébreux en Égypte avec l'Exode. Et ce mensonge a été un peu considéré comme une faute. Saint Augustin le sauve en disant que ce n'est pas un mensonge, mais c'est un détour. En réalité, si, c'était quand même un mensonge. Et c'est là que nous voyons qu'il y a une part d'humanité chez Abraham aussi. Il y a ensuite une séquence importante qui est la séparation d'Abraham avec son neveu, Lot. C'est un moment important. Certains l'ont mis en parallèle avec l'histoire de Caïn et Abel. Là où Caïn et Abel s'étaient battus, s'étaient disputés dans la violence, surtout, bien sûr, Caïn. Ici, au contraire, Abraham va éviter le conflit, et il va se séparer de son neveu, Lot, avec la séquence célèbre dans laquelle chacun choisit la partie qui lui revient, et Lot est invité à choisir le premier, ce qui montre aussi la grandeur d'Abraham. Puis ensuite, nous avons donc justement l'enlèvement de Lot et Abraham. C'est le seul épisode guerrier que nous ayons de la figure d'Abraham, où Abraham va aller à la recherche de son neveu, Lot, et il va le sauver. Et c'est au retour qu'il va y avoir cette scène très courte, mais en même temps très, très fondatrice, on pourrait dire, de la rencontre entre Abraham et Melchisédek, qui lui offre le pain et le vin. Et certains ont vu là une figure aussi d'une réparation du pain qui était gagné à la difficulté que l'on sait. Et là, tout à coup, une grande célébration. Et puis, bien sûr, on y viendra tout à l'heure, le chapitre 15, dans lequel nous avons la rencontre de Dieu avec Abraham, avec toute la Syrie, chapitre 17. Puis à la suite de cela, nous avons le texte que nous commenterons dans quelques temps, dans quelques minutes, autour du sacrifice du fils d'Abraham, Isaac. Et à ce moment-là, vers les chapitres 27, 20, 25, 26, le cycle d'Abraham s'achève, il est enterré, il a acheté un terrain pour sa femme, il y est enterré. Et du côté de Sichem, ce lieu si fort encore aujourd'hui, puisque c'est là que les trois religions se retrouvent pour célébrer, parfois dans la violence, ce père fondateur qu'a été Abraham pour eux.
Je suis certain que vous avez donné envie à nos auditeurs de relire ces 25 chapitres d'un seul tenant, parce que c'est vrai que c'est formidable de pouvoir rentrer dedans complètement. Alors effectivement, maintenant nous allons relire un des grands textes de ce cycle, qu'on appelle habituellement l'hospitalité d'Abraham, donc en Genèse 18, versets 1 à 15 dans la Bible de Jérusalem. Le Seigneur apparut à Abraham au chêne de Mambré, tandis qu'il était assis à l'entrée de la tente au plus chaud du jour. Ayant levé les yeux, voilà qu'il vit trois hommes qui se tenaient debout devant lui. Dès qu'il les vit, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre et se prosterna à terre. Il dit, « Mon Seigneur, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, veille ne pas passer près de ton serviteur sans t'arrêter. » Qu'on apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous l'arbre. Que j'aille chercher un morceau de pain et vous vous réconforterez le cœur avant d'aller plus loin. C'est bien pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais donc comme tu as dit. » Abraham se hâta vers la tente auprès de Sarah et dit, « Prends vite trois boisseaux de farine, de fleurs de farine, pétris et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau et prit un veau tendre et bon. Il le donna au serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du caillé, du lait, le veau qu'il avait apprêté et plaça le tout devant eux. Il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, et ils mangèrent. Ils lui demandèrent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est dans la tente. » L'hôte dit, « Je reviendrai vers toi l'an prochain. » Alors, ta femme Sarah aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui se trouvait derrière lui. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Donc Sarah rit en elle-même, se disant, « Maintenant que je suis usée, je connaîtrai le plaisir, et mon mari qui est un vieillard ?» Mais le Seigneur Dieu dit à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri, se disant « Vraiment vais-je encore enfanter alors que je suis devenue vieille ?» Y a-t-il rien de trop merveilleux pour le Seigneur ? À la même saison, l'an prochain, je reviendrai chez toi et Sarah aura un fils. » Sarah démentit. « Je n'ai pas ri, dit-elle, car elle avait peur. » Mais le Seigneur répliqua, « Si, tu as ri. » Si nous regardons le texte de plus près, il comprend deux parties. La scène de l'hospitalité d'Abraham au chêne de Mambré et celle de la promesse d'un fils à Abraham et à sa femme Sarah. Le début du récit est un peu mystérieux. Le narrateur parle tout de suite d'une apparition divine à Abraham. Mais celui-ci voit trois hommes et s'adresse à eux au singulier en les appelant « mon Seigneur ». On retrouvera cette ambiguïté plus loin. Lors de l'annonce de la naissance d'un fils à Abraham et Sarah. Père Alain, a-t-on affaire à une apparition de Dieu, à une visite de trois étrangers ou aux deux à la fois ? Ou bien l'auteur aurait-il assemblé plusieurs éléments rédactionnels hétérogènes ?
Face à des textes comme cela, je crois qu'il est difficile et sans doute vain de vouloir trouver une interprétation qui satisfasse tout le monde. N'oublions jamais que, et vous le savez comme moi, que les textes sont faits pour être lus et dépassés d'une certaine façon. C'est un texte mystérieux, c'est vrai, même grammaticalement, puisque vous avez pu noter qu'on passe du singulier au pluriel et que ce glissement de trois personnes en une personne a évidemment donné un espace pour les commentateurs qui ont vu là le mystère trinitaire. Ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que cette apparition du Seigneur, parce que en hébreu c'est Yahvé, le mot de Dieu qui vient, et Abraham est un de ceux qui a les plus fortes rencontres avec Dieu, c'est quelque chose qui symbolise quelque chose, à mon avis, de fort. Abraham est au bord du chemin. Abraham attend les voyageurs. Et la tradition juive a fait d'Abraham une sorte d'homme qui guettait les gens fatigués qui passaient, les plus pauvres, et qui les invitait sous sa tente pour les rassasier, pour leur donner à boire. Et là, il attend et il voit passer des disciples. Et lui, il est assis et les passagers sont debout. Nous verrons tout à l'heure qu'il y a un renversement des positions. Et donc, c'est là qu'il interpelle son Dieu pour essayer de l'inviter à vivre et à entrer dans ce repas qu'il va lui proposer. Alors, ce repas, il est étrange aussi, parce que vous avez dû noter comme moi qu'en général, une mère de famille qui prépare un repas, elle prend son temps. Ici, tout le monde court. Il y a une espèce de hâte extraordinaire, une diligence, enfin, comme si ce qui se passait était tellement important qu'il fallait à la fois choisir le meilleur et en même temps le faire très vite, y compris la cuisson. Donc, c'est quelque chose d'assez extraordinaire et il y a quelque chose qui nous arrête un petit peu. On se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, au fond, ce récit, ce repas? Et il débouche sur un moment très fort. C'est un moment... vous l'avez lu tout à l'heure, ils se tenaient debout près d'eux sous l'arbre et ils mangèrent. Vous auriez pu souligner ce texte parce que c'est sans doute le cœur de ce récit. C'est-à-dire, vous voyez, ici il y a une inversion des positions. Là c'est maintenant les invités qui sont assis et c'est Abraham qui est là debout devant eux. Et ils mangèrent. Alors les exégètes ont beaucoup cherché autour de ce texte. Et comme la tradition juive a souvent voulu poser Abraham comme une sorte de réparation du péché d'Adam, là où Adam avait péché, Abraham a sauvé en quelque sorte. Et ici, si nous regardons de près, on ne peut pas ne pas penser, si on a l'habitude de la Bible, au repas dans le jardin d'Éden, où nos ancêtres, Adam et Ève, ont volé la nourriture de Dieu, puisqu'ils ont pris de cet arbre qui leur était interdit, alors qu'ils avaient tout le terrain qui leur était donné, tous les arbres, tous les fruits qu'ils pouvaient manger. Non, ils ont voulu manger ce qui n'était pas à eux. Et ici, la beauté de ce passage, c'est que Abraham, sous un arbre, c'est la première fois que le mot arbre réapparaît dans la Genèse. Jusque-là, on n'a jamais entendu le mot arbre, si ce n'est beaucoup dans les chapitres 2 et 3 de la Genèse. Et là, tout à coup, un arbre et un repas. Et un repas, quand on regarde même le texte hébreu, on s'aperçoit qu'il y a des mots qui ressemblent un peu à des textes de la Genèse. On a envie de penser que c'est un peu une sorte de réparation qui dit la grandeur d'Abraham, au fond. Et les dieux mangent, ou le Dieu mange, au fond, comme s'il trouvait là une réparation à ce que les deux premiers, Adam et Ève, avaient fait, et qui était mal, bien sûr, puisque c'était voler la nourriture des dieux.
Est-ce qu'on ne pourrait pas penser que cette inversion un peu des postures, le passage du singulier au pluriel, etc., vous pourrez vouloir dire qu'au départ, Abraham pense que ce sont des gens de passage ordinaires qui viennent là et qui prend conscience progressivement que ces trois personnages sont beaucoup plus que trois passagers ordinaires, mais il y voit à ce moment-là la figure de Dieu.
C'est difficile à voir. Une fois, ces textes sont toujours un peu suggestifs, ils ne sont jamais d'une clarté absolue. Le texte dit « le Seigneur apparut », donc ça veut dire il apparut à Abraham, et Abraham a perçu qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, et ce glissement dans le pluriel et le singulier, bien sûr, va ouvrir une brèche dont nous allons sans doute reparler après, mais je pense que cette hospitalité d'Abraham montre bien que quelque chose se joue d'une certaine façon dans les repas. Alors là, nous retrouvons une thématique qui est très importante dans la Bible, peut-être qu'on ne souligne pas assez quand on commande les Écritures, c'est les importances des repas et des repas dans lesquels Dieu vient rencontrer l'homme. Il y en a plusieurs. Et celui-là, bien sûr, il est tellement à la fois suggestif, tellement raccourci aussi, ramassé. Vous voyez, la représentation qu'on peut se faire, on voit Abraham debout, en train de regarder avec admiration les autres qui sont en train de manger, de se restaurer. Et là, faisant au fond ce geste qui doit plaire à Dieu, puisque Dieu va, on y viendra tout à l'heure, il y a un lien entre la suite et l'annonce de la naissance d'Isaac. Donc on est dans un récit fondateur, si vous voulez. On peut déjà juste faire une petite parenthèse qui montre bien le lien que j'évoquais, c'est que dans la Genèse chapitre 2 et 3, la séquence qui suit, c'est le meurtre du frère. Ici, la séquence qui suit, c'est la naissance d'une naissance. Donc, vous voyez, il y a quelque chose d'opposé un peu à des éléments qui sont dans les premiers chapitres de la Genèse.
Alors, effectivement, toute la suite du texte, là, des versets 9 à 15, est entièrement consacrée à la promesse d'un fils à Abraham et à Sarah par le ou les visiteurs. Il y a toujours cette ambiguïté. Abraham avait déjà reçu cette annonce de Dieu lors de sa circoncision, en Genèse 17, 16, 17. Mais Abraham et surtout Sarah ont du mal à croire à cette promesse au point d'en rire chacun à leur tour. Comment lire cette scène qui est finalement pleine d'humanité ?
Oui, on pourrait même dire pleine d'humour aussi. Parce
d'humour
que
aussi, oui.
Ce rire de Dieu, ce rire devant la promesse de Dieu, il est répété à plusieurs reprises. Alors, il y a plusieurs explications. La première explication, vous savez, les Hébreux qui étaient habitués à des récits qui étaient racontés, ils entendaient le son des mots. Et quand ils entendaient l'évocation du rire, ils entendaient un mot en hébreu qui veut dire, dont le verbe veut dire « itzaak ». « Tzaak » en hébreu, ça veut dire « rire ». Et donc, ce rire de Dieu,
c'est
un jeu de mots entre le nom d'Isaac et puis le rire, à la fois le rire d'Abraham. Mais Abraham rit à plusieurs reprises. Mais les commentateurs juifs, surtout, ont voulu sauver un peu Abraham en disant « Abraham, il rit parce qu'il croit ». Et Sarah, elle rirait parce qu'elle est incroyante. Je pense qu'ils sont tous les deux
incroyants. Est-ce qu'elle ne serait pas, elle, un peu entre les deux en tant que femme ? C'est-à-dire à la fois un rire de joie, si ça pouvait être vrai, et puis d'incrédulité, un peu de
moquerie,
quelque part.
Oui, et d'autant plus que le rire d'Abraham, si on regarde de près le texte en hébreu, Abraham tombe par terre. Et alors, certains commentateurs disent, c'est peut-être pour ça que Dieu n'a pas entendu, puisqu'il était allongé. Tandis que Sarah, elle l'a dit fort, et donc Dieu l'a entendu d'une certaine façon, et ça donne du sens au dialogue. Et Abraham rit, l'un et l'autre rit, parce que c'est le rire au fond devant l'incrédulité. Comment c'est possible que deux personnes qui ont plus de 80 ans puissent donner naissance à un enfant ? Il y a là un paradoxe, c'est les mystères de Dieu. Dieu est souvent capable de faire ces réalités au fond qui nous déconcertent. Et donc, c'est une annonce formidable, et une joie, on pourrait dire. C'est l'annonce, la naissance, qu'une naissance va advenir, qu'il y aura un enfant qui va naître. Et on pourrait d'ailleurs, nous, chrétiens, alors les juifs ont leur lecture, bien sûr, hein, chacun lit à sa façon. Nous lisons un peu autrement parce que nous avons le Christ. Mais si vous avez bonne mémoire, et je sais que vous connaissez bien la Bible et les évangiles, au chapitre 8 de Saint Jean, au moment où le conflit est engagé entre les Juifs et Jésus, Jésus dit aux Juifs, Abraham s'est réjoui de me connaître. S'est réjoui. C'est-à-dire, on a l'impression que l'auteur qui a écrit ce passage connaissait la tradition du rire d'Abraham, et là il l'applique non plus à Isaac, mais il l'applique à Jésus. Et Dieu, Jésus dit, il s'est réjoui de ma venue. Il a ri de ma venue. Et les gens lui disent, mais comment tu peux dire ça? Tu n'as pas 50 ans et tu as vu Abraham, et avant qu'Abraham fût, je suis. C'est-à-dire, vous voyez cette séquence où Abraham et Isaac deviennent au fond les figures et les pères de l'Église, on y reviendra tout à l'heure, ont souvent relié Abraham et Isaac dans beaucoup de thématiques, y compris celles que nous évoquons maintenant.
Merci Père Alain Marchadour, on est au terme de cette première émission de cette saga d'Abraham. Merci donc à vous pour nous avoir fait partager vos connaissances. Merci aussi à Christophe Aubry qui assurait la production. Nous voici au terme de la rediffusion de ce numéro de l'émission biblique selon les Écritures avec le père Alain Marchadour, bibliste, qui nous a quittés le 3 mai dernier. Pour lui rendre hommage, Présence rediffuse l'intégrale des 44 émissions de 20 minutes du 29 juin au 4 septembre 2026, du lundi au vendredi. Rendez-vous donc au prochain numéro de Selon les Écritures. Chaque émission peut aussi être réécoutée à tout moment en podcast sur le site web radioprésence.com. Au revoir et à très bientôt sur les antennes de Présence.